Et au menu de notre club cet après-midi, la première course de voitures moléculaires, 3 minutes pour des inventions et les expositions aux ondes électromagnétiques. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, un nouvel éclairage sur la domestication des chevaux.
Oui Mathieu, l'ADN d'une quinzaine de chevaux sites vieux de 2500 ans nous montre les effets de l'élevage sur la génétique des animaux domestiques. Une étude riche d'enseignements que nous commentons avec l'anthropologue Ludovic Orlando.
Et c'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de notre club. Préparé aujourd'hui par Chantal de Montagnier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, des nanovoitures, des inventeurs, des ondes électromagnétiques dans notre club et je salue mes invités. Ils sont donc nombreux avec moi en studio, la journaliste Aline Richard, les ingénieurs David Pignol, Daniel Garcia, Olivier Braillard et Christian Collin, ainsi que Jo Viard. Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Bonjour.
Et puis par téléphone depuis Toulouse, Christian Joachin, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour.
Christian Joachin, vous êtes l'organisateur de la première course internationale de nanovoitures, donc nous sommes à l'échelle moléculaire, et la course a commencé ce matin, 36 heures à suivre sur YouTube avec ces machines moléculaires. Ça a déjà commencé là, comment ça se passe?
Bah, ça a commencé exactement à pile à 11 heures, comme on avait prévu. Tout s'est bien déroulé avec un petit crash imprévu, et ça a redémarré à 12h50 et là c'est parti, ça continue.
Bon, vous avez eu un crash d'atome, c'est ça?
Non, un crash logiciel sur un des PC de contrôle.
Bon, on va en parler avec vous parce que c'est une première, effectivement, là on est vraiment à l'échelle de l'atome et vous allez nous expliquer comment vous avez organisé d'abord cette course et puis ce qui se passe en ce moment, c'est en direct sur YouTube, les auditeurs peuvent aller sur le site du CNRS. 3 minutes pour une invention, c'est donc le commissariat à l'énergie atomique de Cadarache qui a organisé ce concours en février pour mettre en lumière ses inventeurs. 4 ont été récompensés, ils sont tous avec nous pour un tour de table. David Pignol, qu'avez-vous inventé? S'il vous plaît. Bonjour à vous.
Bonjour, j'ai inventé en fait, mon équipe a participé à l'invention d'un nouveau système pour faire de la biodépollution de métaux lourds en utilisant des bactéries qui sont aimantables, donc des bactéries tout à fait particulières.
Daniel Garcia, qu'est-ce qui est sorti de votre imagination?
Eh bien, pas que de la mienne, bonjour, c'est pas que de la mienne, mais en fait c'est vrai l'aboutissement de travaux qui permettent d'utiliser des bactéries très particulières aussi, ce sont des bactéries photosynthétiques pour dégrader les pesticides.
Olivier Braillard, vous êtes l'inventeur de quoi?
Alors moi je suis l'inventeur d'un petit capteur qui mesure le coefficient d'échange. Alors bien sûr, je suis seul inventeur, mais j'ai été inspiré de bon nombre de collègues, d'expériences, de contacts avec des scientifique.
On va avoir besoin d'explications dans un instant. Christian Collin, de votre côté, dernier inventeur récompensé. Bonjour, qu'est-ce que vous avez inventé?
J'ai inventé un connecteur rapide pour brancher des tuyaux concentriques, mais on en reparlera plus tard.
C'est nécessaire, je pense.
Oui, j'ai l'impression.
Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et puis enfin, Jo Viard, pour le site The Conversation, vous avez écrit un article sur les idées reçues liées aux ondes électromagnétiques. Et dans cet article, vous nous dites à quel point notre perception sur la question est assez réduite, en réalité.
Absolument, oui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, dans l'article de The Conversation, j'aborde la question de la perception qu'on a des ondes, qui sont souvent réduites à celles qui viennent des antennes relais. Et on oublie le doudou qu'on a et qu'on utilise beaucoup, qui est le téléphone.
Donc, oui.
Je pense que ça vaut quelques explications.
Absolument, ça nous intéresse. Aline Richard, vous êtes là au loin, ça va Aline? On vous entend d'ici. Ce sujet a retenu votre attention et on en parlera dans un instant avec vous. Voilà pour les sujets de ce club et j'attends vos messages et vos questions sur le mot-clé l'attaque et sur franceinter.fr. Lorsque la génétique des populations animales nous permet de mieux comprendre l'histoire de la domestication, eh bien c'est à la une de la science aujourd'hui avec les anciens chevaux des peuples scythes.
Il y a plus de 2000 ans, les steppes d'Asie centrale résonnaient du galop de cavaliers nomades réputés sanguinaires, les scythes. Qui sont ces guerriers redoutés ?
Et qui sont leurs chevaux, car c'est à travers l'ADN de leurs chevaux justement que vous regardez aujourd'hui ces anciens peuples du Kazakhstan. Ludovic Orlando, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes directeur de recherche au laboratoire CNRS Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse. Et vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle du Danemark, vous êtes en ligne. Et vous êtes coordinateur de cette étude parue aujourd'hui dans la revue Science. Pourquoi, Ludovic Orlando, les chevaux des peuples scythes sont-ils intéressants quand on s'intéresse à l'histoire de la domestication équestre?
Alors pour plusieurs raisons, tout d'abord parce que les scythes étaient eux-mêmes un peuple fascinant. Donc si on veut comprendre comment les sites vivaient, quels étaient leurs modes de vie. Cela passe aussi par la compréhension de leur interaction avec la faune et en particulier vers l'animal qui était le plus important pour eux, qui était le cheval.
Oui, la zone géographique des sites, pour bien comprendre de quoi on parle.
Donc on s'étend sur un territoire qui part aux environs de l'Ukraine jusqu'au contrefort de l'Altaï en passant par les steppes d'Asie centrale, donc y compris le Kazakhstan. Et en particulier dans cette étude, on s'est intéressé essentiellement à des sites archéologiques qui étaient présents dans la République de Touva aujourd'hui, au nord de la Mongolie et au Kazakhstan oriental.
Alors vous l'avez dit, les sites étaient très proches de leurs chevaux. Les grands guerriers se faisaient même enterrer avec leurs montures. Est-ce que c'est pour ça que vous avez pu avoir accès à autant d'ADN ?
Exactement. Donc dans ces constructions funéraires qui sont appelées des kourganes, en fait, on retrouve non seulement le cercueil des membres de l'élite, les grands guerriers que vous mentionnez, mais très souvent, ils sacrifiaient beaucoup de chevaux pour célébrer le défunt. Et en particulier, ici, dans un site qu'on a étudié, qui était le site de Berel, au Kazakhstan, ils avaient sacrifié une quinzaine de chevaux qui étaient conservés comme congelés depuis 2300 ans, en fait. Et comme l'ADN était conservé ainsi que les restes des chevaux, ça a été relativement facile pour nous d'utiliser des techniques de pointe en génomique moléculaire pour séquencer l'ensemble de génome de ces individus.
Et qu'est-ce qui vous intéresse alors dans l'ADN de ces chevaux sites ?
Alors, donc comme je le disais tout d'abord, quel type de chevaux les sites étaient capables d'ingénérer est une question intéressante pour nous parce que on peut très bien imaginer que les peuples du passé étaient homogènes vis-à-vis de leur utilisation du cheval ou au contraire très hétérogènes. Et peut-être que cette hétérogénéité expliquait des différences culturelles, mais aussi des différences de pouvoir entre les différentes peuplades passées. Mais surtout, comme ils vivaient il y a environ 2500 ans, on se situe à peu près à mi-chemin dans l'histoire de la domestication, qui, elle, a commencé il y a 5000 à 5500 ans. Donc si vous voulez comprendre, en fait, comment la domestication du cheval a commencé, c'est assez difficile de le faire depuis maintenant, parce qu'il y a eu 5000 ans qui se sont écoulés, mais c'est beaucoup plus facile à faire si vous remontez le temps directement par l'ADN, et que vous vous situez dans une zone temporelle qui est un peu plus proche du début de la domestication. Et donc c'était pour ça que c'était très important pour nous de pouvoir prendre un point à mi-chemin pour savoir ce qui s'est d'abord passé dans un premier temps, dans la première période de la domestication, dans les trois premiers millénaires si vous voulez, puis ensuite, qu'est-ce qui a changé jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on regarde aujourd'hui un cheval, en fait, à quel point ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il reste de l'héritage site? Qu'est-ce qu'il reste du début de la domestication, en quelque sorte.
Et bien alors du coup, concrètement, quelle différence entre les chevaux sites et les chevaux d'élevage actuels ?
Alors, beaucoup de différences. Nous avons pu trouver que aujourd'hui, vous pouvez voir des chevaux baies, des chevaux noisettes, des chevaux à taches, des chevaux à pelage dilué. Toutes ces couleurs-là étaient déjà présentes dans les chevaux sites. Donc, cette diversité de couleurs, cette diversité de formes existait déjà. De même, il y a des gènes qui, aujourd'hui, selon leurs variants, permettent aux chevaux de courir des sprints très, très, très rapidement, notamment ceux que portent les chevaux de course anglais, par exemple, ou le sel français. Ces variants-là géniques étaient pour certains présents déjà chez les chevaux sites, donc ça veut dire, mais pas chez tous les individus, ce qui veut dire que ces chevaux étaient capables à la fois de capacité de sprint très forte, mais également d'une capacité d'endurance très forte, donc ce qui nous dit directement que les sites eux-mêmes étaient des éleveurs qui privilégiaient une diversité d'allures, si vous voulez. Mais on a trouvé aussi que les chevaux de l'époque étaient beaucoup plus divers génétiquement que les chevaux actuels. En réalité, la population de l'époque semble avoir été plus préservée d'une certaine manière quant à son potentiel génétique, et la démonstration la plus forte était surtout sur les mâles, en fait, sur les étalons, qui aujourd'hui, d'un point de vue génétique, sur leur chromosome Y, se ressemblent tous, et comme s'ils dérivaient tous d'un même ancêtre, alors qu'à l'époque, il y avait toute une diversité de chromosomes Y en place dans les populations.
Mais ça veut dire quoi, Ludovic Orlando ? Ça veut dire que les sites, justement, à cette époque, avaient une connaissance de la génétique sans même connaître l'ADN ?
Alors, une connaissance de la génétique, j'irai pas jusque-là, puisque, comme vous le savez, hein, ça c'est une invention de la première moitié du XXe siècle, la génétique, mais par contre, ça veut dire que par leur intuition, par leur relation au monde, par leur observation au monde, ils ont su développer un art équestre qui, indépendamment de l'absence de la connaissance génétique, était capable de préserver une grande diversité au sein de leurs troupeaux. Donc ça, c'est en fait, si vous regardez les structures naturelles des troupeaux de chevaux, qui sont des troupeaux en harem, essentiellement, où il y a un individu dominant, puis des juments, ainsi que leurs descendants, eh bien, peut-être que les sites ont calqué quelque chose sur ce modèle naturel-là pour permettre au mieux de conserver l'état naturel des populations qu'ils domestiquaient.
Étonnant, oui.
Si on comprend bien ce que vous dites, c'est l'élevage actuel participe à une érosion plus grande de la diversité animale domestique que l'élevage des sites ?
Alors, effectivement, ce qu'on montre, c'est que la diversité génétique à l'échelle du génome total, hein, non pas quelques gènes, mais du génome total, la diversité du génome des sites, des chevaux des sites était beaucoup plus grande il y a 2300 ans qu'elle ne l'est maintenant. Donc la conséquence de ça, c'est que dans les deux derniers milliers d'années, il y a eu une perte, un effondrement de la diversité génétique. Et alors la cause de ça est encore inconnue, mais on peut imaginer que nos pratiques plutôt intensives d'élevage n'ont pas contribué à maintenir la plus grande diversité possible dans ces populations-là.
Et les effets, du coup, d'une perte de diversité génétique, ça donne quoi ?
Alors, il se trouve que cette perte de diversité génétique, elle est paradoxalement associée en même temps, c'est là où le bât blesse, elle est associée en même temps à une accumulation de mutations d'un type particulier qui sont des mutations qu'on appelle, nous, généticiens, délétères, donc des mutations qui, quand vous les portez, vous incapacitent à faire certaines fonctions, par exemple, vous reproduire correctement, ou alors votre capacité de survie est menacée. Donc, en même temps qu'il y a eu une érosion de la diversité génétique, il y a eu une sorte d'enrichissement en mutations d'un type délétère. Ce qui est en fait la double mauvaise équation, si vous voulez. Donc, les conséquences sont que les chevaux actuels portent un fardeau génétique plus grand qu'il n'était alors, et ça leur donne des risques plus importants de développer des maladies d'ordre génétique.
Est-ce que ce constat de l'érosion de la biodiversité, on peut l'étendre à tous les animaux domestiques ?
Alors, il y a une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse du coût de la domestication qui dit précisément ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que dès lors qu'on domestique le monde animal, ça passe par un effondrement des populations d'un point de vue démographique. Et à cause de ça, une des conséquences génétiques, c'est que le génome se fait envahir en quelque sorte par des mutations d'un type délétère. Et il y a des évidences qui montrent que, en effet, ça a été prouvé ça chez le chien, ça a été prouvé chez d'autres animaux domestiques. Donc, cette hypothèse semble être relativement consensuelle. Nous, ce que l'on montre dans notre travail, c'est que bien qu'on peut cautionner cette hypothèse prévoyait que l'accumulation des mutations délétères se ferait dès lors que l'on commençait un phénomène domesticatoire. Or, nous, ce qu'on a montré, c'est que les sites, pendant 3000 ans, donc 3000 ans après avoir domestiqué le cheval, eh bien leur génome n'était toujours pas envahi par ces mutations délétères. Donc ça veut dire que la domestication en soi n'est pas la contrainte qui fait que le génome va inexorablement s'enrichir en mutations délétères. En réalité, il est tout à fait possible de coexister avec l'animal sans pour autant contraindre et diminuer les chances de survie de l'animal à terme.
Bon, on va dire vive la diversité génétique alors, Ludovic Orlando. C'est peut-être valable pour les humains d'ailleurs aussi. Hein. Vive le métissage. Merci en tout cas pour votre éclairage avec cette publication qui vient de paraître dans la revue Science. Merci Ludovic Orlando. Et Axel, passe un bon week-end.
Bon week-end.
On se retrouve lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Une nouvelle méthode pour traquer nos ancêtres du passé à même le sol. Une équipe de paléontologues espagnols montre qu'il est possible d'extraire de l'ADN humain directement dans les sols des grottes anciennement habitées, même lorsque celles-ci ne contiennent pas de squelettes fossiles. Ils sont parvenus à mettre en évidence de l'ADN humain et animal dans plusieurs grottes de toute l'Europe avec seulement quelques échantillons de sédiments. Un espoir important pour déterminer les différentes époques d'occupation du territoire par différents groupes d'ancêtres et donc une avancée significative pour le domaine. La grenade, ce fruit, contient une molécule qui peut aider à décrasser les cellules et lutter contre le vieillissement. Découverte en 2016, l'urolithine A permettrait de restaurer un bon nettoyage des usines à énergie de nos cellules, que sont les mitochondries, et ralentir ainsi la perte d'efficacité musculaire. Testée avec succès pendant 4 semaines par des chercheurs suisses sur des volontaires, 250 mg de cette molécule administrée quotidiennement a permis d'augmenter significativement l'activité mitochondriale et la fonction musculaire, et cela sans effet secondaire. Alors attention, ne vous rouez pas pour autant chez votre primeur, car selon une autre étude, tout le monde ne possède pas les bactéries intestinales capables de transformer les tanins de la grenade en urolithine A. Et puis pour terminer, suite dans l'affaire de plagiat qui vise le physicien français Étienne Klein, selon le magazine Science et Avenir, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a pris la décision de mettre fin aux fonctions d'Étienne Klein en tant que président du conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Un décret publié aujourd'hui au journal officiel, signé du président de la République. Une décision qui fait suite aux accusations de plagiat littéraire et scientifique diffusées en novembre par le magazine L'Express. Allez, c'est notre club, nous sommes vendredi. Prettiest Virgin, et c'était Agar Agar.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et il y a du monde autour de la table du club aujourd'hui. On va commencer d'ailleurs par un petit coup de fil à Toulouse où nous attend Christian Joachin, puisque vous êtes le directeur de recherche au CMS CNRS et l'organisateur de la Nanocar Race. C'est la première course internationale de molécules voitures. C'est comme ça que vous les appelez. Est-ce qu'on peut dire voiture moléculaire également? Vous acceptez le terme?
Bon, on peut dire les deux, sauf qu'il y a une petite différence entre les deux. Mm-hmm. C'est que molécule voiture, c'est en général une seule molécule qui a toutes les fonctions d'une voiture. Voiture moléculaire, c'est un peu plus large. Il peut y avoir des macromolécules, des assemblages de molécules.
Voilà. Donc, on va parler de molécules voiture. Alors, en l'occurrence, oui. Avec le coup d'envoi...
Alors, le terme générique, on peut dire nanocar, comme ça, tout le monde va plus vite.
Absolument. Donc, c'est la première course de molécules voiture. 36 heures oui. Qui sont à suivre depuis ce matin sur le site du CNRS. Alors, vous êtes à Toulouse, tout mais à on peut être d'absolument partout pour vous suivre. Dans quel état d'esprit vous êtes, Christian Joachin? Donc, maintenant que ça a commencé, vous êtes un petit peu soulagé ou pas?
Bah, je suis soulagé, et plus pas soulagé, parce qu'on peut avoir tout un tas de petits problèmes, comme à chaque fois qu'on lance une mission quelque part. Là, c'est dans le nanomonde qu'on lance la mission, mais ouais. Il peut y avoir tout un tas de crash logiciels, etc., comme on en a eu tout ce matin.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le coup d'envoi, alors exactement? Les différentes équipes ont lancé leur voiture?
Non, tout le monde s'est très bien passé, les pistes étaient prêtes, tous les concurrents étaient prêts, ils avaient travaillé pendant deux jours, on avait préparé tout ceci pendant plusieurs semaines pour avoir les bonnes molécules au bon endroit sur la surface.
Oui.
Et puis, il y a un concurrent qui est tombé sur un os logiciel. Sa fenêtre s'est gelée. On avait plus ou moins simulé ce genre de choses. Mais il y a un concurrent qui était un peu trop fatigué et qui s'est trompé. Au lieu de lever la pointe, il l'a écrasé.
Et alors, du coup?
Donc, ça a mis la panique sur les quatre pointes du même microscope. Ouais. Donc, il a fallu repartir. On a mis 55 minutes pour repartir.
D'accord. Donc, les équipes
étaient... Et maintenant, ça tourne apparemment.
C'est ça. Les équipes étaient quand même sur place pour les réparations. Comment vous avez vu?
Oui, sur les réparations. Il a fallu descendre en vitesse, relancer le logiciel du PC qui avait planté et voilà. Puis après, rapprocher les pointes, les repréparer et retrouver les pistes.
Alors, comment vous est venue l'idée de cette course quand même assez originale à l'échelle moléculaire, on le rappelle, hein?
Bah, l'idée, c'est une conjonction de deux choses. D'abord, on avait en commande un microscope unique à effet tunnel à quatre pointes avec résolution atomique qui permet de manipuler les atomes et les molécules une par une.
Donc ça c'est un microscope tout à fait particulier. Hein.
Ah, tout à fait particulier, où on a quatre utilisateurs en parallèle qui peuvent manipuler de façon indépendante les molécules. Et en même temps, on travaillait pas mal sur les voitures et les moteurs à une seule molécule. Donc les deux à la fois ont fait que on a proposé dans un papier de revue faire une course, c'était fin 2012.
Et donc l'idée est partie de là pour organiser,
2012, oui.
Réunir des équipes, donc c'est ça? Vous avez vraiment des équipes du monde entier?
On a des équipes du Japon, des équipes des États-Unis, des équipes d'Allemagne, une équipe française et une équipe suisse.
Et comment se comportent les Français là depuis le départ de la course alors?
Bah, je les vois à l'écran et ils avancent un peu.
un peu seulement. À quelle vitesse?
Comme toute course, il y en a qui avancent beaucoup, il y en a qui avancent un peu moins vite, c'est tout.
Ouais. À quelle vitesse ça avance justement une nanocar?
Alors, on peut mesurer en deux types de vitesse. Il y a la vitesse, je dirais, instantanée, où quand vous enviez l'impulsion, effectivement, la voiture avance par pas de 0,2 nanomètre, 0,6 nanomètre. Toutes les secondes en moyenne, ça c'est l'avance. En même temps, il faut vérifier où est passée la molécule. Donc là, ça prend plus de temps parce qu'il faut faire une image.
Oui, ça nous amuse beaucoup.
Une image, c'est 3 à 5 minutes.
D'accord. Donc il faut quand même prendre son temps.
Oui. Enfin, ça dépend. Si par exemple, le pilote, il sait très bien le faire sans image, il devine où est passée la molécule à chaque fois. S'il a bien contrôlé qu'il a fait une excitation, il n'a pas besoin d'image. Donc il va aller assez vite. On a fait la comparaison tout à l'heure, elles vont à peu près à une dizaine de kilomètres par heure, ce qui correspond en fait à la vitesse, un peu moins que la vitesse moyenne, des premières voitures engagées dans la première course de voitures au monde qui a eu lieu en 1894.
Ah oui, d'accord.
En 1894.
Il semble que nous ayons une coupure de téléphone avec Christian Joachin qui était avec nous en ligne. On va essayer de le rappeler en direct. Aline Richard, ça vous amuse, ou cette nano-course, là? C'est quand même une première. Hein,
ça me sidère.
Oui,
ça me sidère. Je trouve ça très beau. C'est un très beau projet. Et on se demande, alors il faudra lui demander une fois qu'on aura à nouveau le contact, ça ressemble à quoi une piste?
Absolument, vous allez voir que c'est une piste en or en plus. David Pignol, vous trouvez ça original?
Oui, j'ai pas compris comment les molécules bougeaient, ils les excitent avec quelque chose qui les fait...
On va parler du carburant alors, certainement.
Ouais, ça, c'est j'ai entendu qu'il y avait une impulsion au départ.
Ouais. Oui, c'est ça. Alors on va avoir les réponses à toutes ces questions dans un instant. Si j'espère qu'on va réussir à rejoindre le nanomonde et à joindre Christian Joachim qui était en ligne avec nous de Toulouse. En tout cas, en attendant, vous pouvez aller vous brancher sur vos ordinateurs sur nanocar-race.cnrs.fr et vous aurez la course en direct puisqu'elle a lieu en ce moment. Je crois qu'on a retrouvé Christian Joachim. Voilà, vous êtes avec nous en ligne.
Allô.
Oui, on vous entend, impeccable. Alors pendant que vous étiez parti, voilà. Il y a plein de questions qui se posaient. Comment elles fonctionnent? Parce que vous avez parlé d'impulsion tout à l'heure. C'est quoi ce qui alimente au fond ces voitures moléculaires? C'est du carburant?
Alors vous avez deux manières. Oui, vous avez deux manières de les faire avancer. Comme il n'y a pas de réservoir de carburant intégré, on ne sait pas faire. Il n'y a pas assez de place encore sur la molécule. Il y a deux manières de faire. Soit on amène une petite pointe sur la molécule, on lui fait passer un petit courant. En plus, en direct, c'est exactement ce qui a été expliqué sur YouTube. Un petit courant à travers la molécule. Et la molécule va prendre un petit peu d'énergie de ses électrons et va sauter pas à pas sur la surface. Bien sûr, il faut que la molécule soit bien dessinée pour ça. C'est-à-dire qu'elle soit capable d'utiliser cette énergie pour faire ce mouvement. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est une façon plus électrostatique qui est, en fait, juste de placer la pointe dans la montée de champ électrique pointe surface. Et à ce moment-là, la molécule va être légèrement poussée et avancée.
Il y avait une question d'Aline Richard sur la piste, hein. Aline, c'est ça?
Voilà, non pas la piste aux étoiles, mais la piste au nanocar. Ça ressemble à quoi, une piste?
Alors en fait, on a décidé d'utiliser une surface d'or. Cette surface d'or a une propriété extraordinaire, c'est pour ça qu'on l'a choisie. C'est qu'en fait, quand on la prépare, il y a des petits sillons, comme une espèce de chevrons, qui apparaissent. Et ces chevrons définissent des petites pistes, comme s'il y avait deux glissières séparées les unes des autres de 6 nanomètres et la molécule se met au milieu.
Et vous faites très attention à ce que cette piste soit intégralement dégagée de toute poussière, j'imagine?
Alors normalement, c'est une préparation d'abord sans poussière dans la salle blanche, et après c'est une préparation dans l'ultra-vide, et à ce moment-là, on a la radiation atomique, c'est-à-dire que tous les atomes doivent être à la bonne place.
Il y a une question de Olivier Braillard pour vous.
Et comment on fait pour les pousser dans le bon sens, pour qu'elles aillent tous faire la course dans le bon sens?
Alors, on met la pointe. Alors, suivant l'endroit où on met la pointe, suivant avec les bons designs, les molécules peuvent aller à droite, à gauche, reculer ou avancer. Mais ça, c'est un problème de design et de conception intrinsèque de la molécule pour que les états électroniques soient capables de faire ça.
Christian Joachim, ça sert à quoi au fond cette expérience? Parce qu'il y a quand même de la recherche scientifique là-dessous. C'est pas qu'une course pour s'amuser et amuser les internautes.
Oui, alors il y a plusieurs types d'utilité. La première chose, c'est de montrer sur le long cours, on a vu ce matin que ça a dérapé un petit peu pendant 55 minutes, que ce genre de machines peuvent tenir la distance. Si j'ose dire, machine qui contrôle, hein, bien sûr, le microscope à effet tunnel. Ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est qu'on a maintenant des machines, c'est la première, mais il y en a maintenant une deuxième, bientôt une troisième dans le monde, qui ont plusieurs pointes. Et si on a plusieurs pointes, on peut accéder avec plusieurs types de signaux à l'échelle atomique. Par exemple, si vous imaginez à faire des manipulations avec une main qui a un seul doigt, et que vous n'avez qu'un seul bras, c'est pas très pratique. Si vous avez deux bras et deux doigts, ça va un peu mieux. Donc là, on a deux fois deux bras, si on veut.
Alors, cette année,
Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Oui. Par exemple, si on veut mesurer un courant qui passe à travers une seule molécule, si on veut, par exemple, alimenter un moteur moléculaire et mesurer le travail qu'il fait, on a besoin forcément d'au moins deux pointes.
Christian Joachim, le prix Nobel de chimie cette année a été attribué à Jean-Pierre Sauvage pour ses avancées sur la conception, la production de machines moléculaires. C'est un lien direct avec l'expérience que vous menez là ou pas?
Alors c'est un lien direct, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, Jean-Pierre Sauvage a été un super précurseur de dessin et de la conception de la synthèse chimique des mouvements moléculaires. La petite différence, c'est qu'il est en solution, il les observe de manière indirecte, tandis que nous, normalement, chaque molécule, on pourrait dire, on les a au téléphone, une par une.
Ouais. Eh ben, c'est ce qu'on peut suivre justement sur votre site, puisque vous en avez pour 36 heures de course. Ça y est, ça a déjà démarré depuis ce matin. nanocar-race.cnrs.fr pour ceux que ça amuse et qui souhaitent voir à quoi ressemble une piste et une course avec des équipes autour donc de ces machines moléculaires. Merci beaucoup Christian Joachim, vous rejoignez vos équipes parce que vous êtes très occupés jusqu'à demain.
Oui.
Bonne journée à vous.
Merci.
À bientôt, au revoir.
Sublime silence autour de moi, tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. La vie t'aurait suffi. sublime et silence. Autour de toi tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches où fuit Paris. Après la nuit, violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi.
Sublime et silence, extrait de son dernier album. Julien Doré dans le club de la Tête au Carré. En février dernier, 16 chercheurs ingénieurs du CEA, le commissariat à l'énergie atomique de Cadarache, ont relevé le défi en présentant en 3 minutes leur invention. Ça nous rappelle quelque chose. Ça tient 180 secondes pour résumer plusieurs années de recherche et vulgariser leur travail. Ce qui représente d'ailleurs une nouveauté pour ces ingénieurs pas toujours habitués à ce type d'exercice. Et à l'issue de ce concours, il y avait 4 gagnants. Ils sont tous avec nous cet après-midi. David Pignol, vous en êtes. Vous avez reçu le premier prix du public. Vous êtes directeur de recherche donc au CEA, vous dirigez un laboratoire de microbiologie. Daniel Garcia, vous avez eu le second prix du jury expert. Vous êtes ingénieur-chercheur en biologie au laboratoire de bioénergétique cellulaire du CEA. Olivier Braillard, vous avez reçu le premier prix du jury d'expert. Vous êtes ingénieur au CEA, expert en thermique et thermo-hydraulique. Et puis Christian Collin, vous avez reçu le second prix du public et vous êtes ingénieur de recherche en sciences des matériaux. Alors c'est vrai que ça s'inspirait clairement du concours Mathèse en 180 secondes. Est-ce que ce travail de pédagogie et de vulgarisation vous a demandé beaucoup d'efforts, David Pignol, dans un premier temps? Vous aviez l'habitude de parler au public de ce que vous faites ou pas?
Alors, plutôt dans des conférences auprès d'experts. Mmh. Et donc, c'est vrai que parler en 3 minutes d'une invention qui regroupe des années de travail, c'est vraiment un challenge.
Ouais.
Mais c'était extrêmement intéressant d'essayer de vulgariser, d'essayer de pas trop faire professeur cosinus avec des choses incompréhensibles.
Et il fallait captiver le public. Qui était qui d'ailleurs? Parce que c'était interne au CEA.
Ouais, en fait, c'était le personnel du CEA Cadarache.
Ah oui, donc c'est pas le plus facile des publics au fond, non?
Non. D'autant plus que le CEA Cadarache regroupe un certain nombre de directions, donc il va y avoir des gens qui font de la chimie, des gens comme nous qui font de la biologie, et donc mm-hmm. il faut arriver à expliquer à des gens, par exemple, qui n'ont jamais vu une bactérie, quel est le type de programme que l'on développe dans nos équipes.
Ouais. Olivier Braillard, est-ce que vous êtes entraîné avant? Comment vous avez bossé alors sur vos 180 secondes de l'enfer là?
J'ai passé beaucoup de temps déjà à essayer de trouver le moyen d'expliquer au public ce qu'était le coefficient d'échange.
Ça, c'est votre découverte.
C'était le plus gros défi.
Ouais.
Donc, je me suis inspiré de ce qu'on entend à Météo France, vous savez. Température réelle, température ressentie. Je me dis là peut-être que je vais pouvoir accrocher le public.
Pourquoi il y a une histoire de température dans votre découverte?
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si on plaçait le petit capteur sur la peau, eh bien on aurait une mesure chiffrée de ce froid ressenti. En fait, le froid ressenti, c'est le coefficient d'échange.
Ouais, ce petit capteur, c'est celui que vous avez inventé.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Et qui servirait donc à ça.
Alors, il peut servir. Là, pour l'instant, il est un peu gros. Il est de la taille de l'ongle.
Ouais.
Il est un peu difficile à mettre sur la peau d'un humain. Mais il peut être utilisé pour optimiser les caractéristiques d'un échangeur. Il peut être utilisé pour limiter les déperditions dans une maison individuelle.
Ouais.
Il a de très nombreuses applications.
Ouais. Donc, fallait à la fois expliquer et convaincre le public de l'utilité de votre invention aussi. Quand même.
Ouais. Alors, il a quand même déjà des applications dont certaines sont en cours.
Mm-hmm.
Actuellement, il est monté sur des disques de frein.
pour optimiser le design et pour optimiser, vous savez, les disques de frein, il faut toujours limiter la masse des voitures. Et donc, pour faire en sorte que le coefficient d'échange et la thermique qu'on demande à ce système de freinage et d'évacuation de calories, eh bien, il soit le plus optimisé possible, donc le moins lourd possible.
Ouais. Voilà. Ah ben, j'ai compris. Voilà. Finalement, vous voyez, bonne démonstration.
J'étais inquiet.
Aline.
Oui, j'ai compris aussi. Voilà. J'ai noté Naïta.
C'est un thermomètre, exactement. En fait. C'est un thermomètre.
Oui, c'est un thermomètre. C'est un thermomètre.
Vous avez inventé un thermomètre.
Non, trois thermomètres.
Trois thermomètres.
Non, parce qu'il y en a trois dedans.
C'est ça.
Pour faire une mesure.
Bon, ça va, on est convaincus. Christian Collin, alors vous, vous êtes ingénieur de recherche donc en sciences des matériaux. Vous avez probablement autour de la table le sujet le plus compliqué à expliquer.
J'en ai peur.
Comment vous y êtes pris? Redonnez-nous l'intitulé, juste comme ça, qu'on s'amuse encore un petit
peu. Alors, le titre, c'est un connecteur double enveloppe. Un connecteur double enveloppe à connexion rapide et indépendante.
Oui.
Ça n'a rien.
Ça ne nous parle pas beaucoup.
C'est ça. Alors, c'est clairement appliqué à ma problématique initialement. C'est que je m'occupe de la conception d'expériences autour d'un réacteur de recherche. Et dans ces expériences, on utilise un gaz qui est classé de sécurité ou de sûreté. Mmh. Et donc, on se sert de ce gaz pour transporter une information, pour être sûr que notre procédé est viable. Typiquement, on transporte la pression dans le gaz. Mmh. Donc, on veut avoir cette info de pression et on veut également avoir l'information que cette pression est toujours intégrée. En fait, il faut vérifier que le circuit qui transporte cette information n'a pas de fuite. Donc, en partie courante, c'est assez simple. Il suffit de mettre un tuyau dans un tuyau.
Ouais.
Comme ça, en surveillant l'espace entre les deux tuyaux, on est au courant s'il y a une fuite ou pas.
D'accord.
Le problème se situe à l'extrémité de ces tuyaux concentriques. C'est comment brancher ces tuyaux concentriques sur notre capteur de pression et de l'autre côté sur le dispositif.
Mais votre invention, c'est quoi alors là-dedans?
L'invention, c'est à l'extrémité du tuyau. Donc, c'est pour connecter ces deux tuyaux concentriques de matière rapide, quasiment intuitive et sans outils.
D'accord, donc c'est un peu pour la sécurité, on pourrait dire les choses comme ça, si vraiment je veux résumer très très grossièrement, pardonnez-moi.
Dans mes applications, oui, c'est
dans vos applications.
Clairement, c'est de la sécurité, voire de la sûreté.
Ouais. Et vous avez répété, vous, alors, votre intervention aussi? Pareil, vous avez dit, mais comment je vais résumer? Vous avez pensé quoi, vos petits-neveux, les plus jeunes de la famille?
C'est ça, j'ai pensé plutôt à mes enfants.
Oui.
Qui jouait
le public.
Sans faire de publicité, qui jouait avec des Lego Star Wars. Mmh. Et puis, je vais partir sur cette thématique et puis je vais essayer de décliner ça à mon invention, parce que ça reste quand même une invention très technologique en fait.
Ouais.
Donc avec les Lego en mettant des jolis dessins. Ça,
bon,
ça,
et vous les avez convaincus, vos enfants? Ça va? Ils ont tout compris?
Non.
Ah, ça c'est terrible pour le père quand même.
C'est l'échec du père.
Bon,
oui.
Vous le vivez bien quand même, non?
Ça va.
Tout va bien. Après, vous avez été récompensé.
Oui.
Donc quand même, vous avez eu un prix, Olivier Boyer.
Mais le public de Canarache a bien compris, parce qu'il a fait un montage. C'était plutôt théâtral d'ailleurs sa présentation.
C'est vrai.
Elle était extrêmement bien appréciée.
Bon, alors David Pignol. Alors vous, on arrive dans le secteur. Voilà, on va pouvoir se dire, ah oui, ça y est, bactéries, le travail des bactéries pour, en l'occurrence, dépolluer
les métaux lourds.
Voilà.
En fait, c'est un travail qui est basé sur la recherche fondamentale. Notre mission, c'est faire de la recherche fondamentale. On appartient à ce qu'on appelle direction de la recherche fondamentale au CEA.
Ouais.
Et donc notre labo, sa mission, c'est de produire des connaissances, des publications, d'experts. Et on est expert dans la caractérisation de micro-organismes de l'environnement.
Mmh.
Et donc, ce que l'on a fait à partir de ces caractérisations, c'est de proposer un système original pour faire de la biodépollution de métaux lourds.
À base de bactéries?
À base de bactéries. Alors, utiliser des bactéries pour faire de la dépollution, ça existe.
Ça,
par exemple,
déjà,
Il y a des marées noires, on met des bactéries qui vont se nourrir des hydrocarbures, les transformer en molécules élémentaires qui ne sont pas toxiques. Par contre, dans le cas des métaux lourds, on ne peut pas les biodégrader. Il va bien falloir les récupérer. Et donc, l'idée de notre invention, c'est d'utiliser des bactéries qui sont aimantables.
Ah.
Ce sont des bactéries qui s'appellent des bactéries magnétotactiques.
Pour les métaux lourds, alors, du coup.
Ouais. Pour tout composé que l'on veut récupérer dans un effluent.
Ouais.
En fait, ces bactéries, ce sont les arrière-arrière-cousines des pigeons voyageurs ou des abeilles. Elles sont capables de sentir le champ magnétique terrestre pour aller rechercher leur nourriture. elles ont en fait la capacité de produire une aiguille de boussole dans leurs cellules qui est constituée par l'alignement de nanocristaux de magnétite. Et donc, c'est des bactéries qui sont naturellement aimantables. Et donc, notre labo est expert dans la caractérisation de ces micro-organismes.
Mais vous les modifiez, ces bactéries?
Alors, on les a modifiées pour aller récupérer les métaux lourds. On leur a mis une pompe à métaux lourds. On leur a mis une éponge à métaux lourds. Ouais. Et cette éponge, on est allé la trouver dans une autre famille de bactéries. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle un métallophore. Donc, pour faire simple, les métaux physiologiques, c'est essentiel à la vie, hein, même pour nous et pour les bactéries aussi. Et donc, les bactéries ont des stratégies pour aller rechercher les métaux dans l'environnement. Et ces stratégies, souvent, c'est de synthétiser une petite molécule, un piégeur de métaux, dans la bactérie. Ouais. Ce piégeur est exporté dans l'environnement. Il va piéger le métal cible, le fer par exemple, qui est indispensable. Et la bactérie a des récepteurs qui permettent de réincorporer le complexe entre le métal et la petite molécule.
On s'en sert déjà aujourd'hui concrètement de ces bactéries dépolluantes ou pas?
Non. C'est vraiment une preuve de concept.
Pourquoi? Parce
c'est vraiment pour l'instant une preuve de concept.
Mais c'est hyper intéressant.
On est à l'échelle du laboratoire.
Mais c'est très prometteur alors.
Ah oui, c'est prometteur. Ouais.
C'est quoi les difficultés pour arriver justement à franchir le gap là de la concrétisation?
Alors, ces difficultés, c'est qu'on va passer à un autre métier. C'est-à-dire, moi, mon métier, c'est de la recherche fondamentale qui va proposer des applications potentielles. Et derrière, on va passer à d'autres expert dans
appliquer, quelque chose pour appliquer votre découverte. Voilà. Aline, Richard.
Oui, je trouve ça absolument passionnant. Et j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des expérimentations, notamment de Craig Venture ou autres, qui seraient de finalement de créer une bactérie de novo, si je puis dire, par exemple, pour dépolluer?
Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement à la mode, c'est de la biologie de synthèse, c'est-à-dire qu'on va utiliser un châssis cellulaire, un micro-organisme qui a une particularité, et on va lui faire rajouter des briques qui viennent d'autres organismes, de manière à avoir à façon un nouveau micro-organisme qui n'existe pas, et qui va permettre d'avoir tout un tas d'applications. Ouais. Alors là, après, on passe dans le problème qu'on va se retrouver avec des OGM, donc ça va être sur des applications vraiment ciblées, mais c'est effectivement extrêmement prometteur.
Mais la vôtre, vous l'a modifiée génétiquement?
Oui.
Ouais. Aussi.
Exactement. Oui.
Daniel Garcia, alors vous aussi, vous travaillez sur des bactéries, hein, justement, pour nettoyer des pesticides. Est-ce qu'il peut y avoir des risques de larguer dans la nature des bactéries, justement, même si leur mission, on l'a compris, hein, est très vertueuse, mais est-ce qu'il y a des dangers, quand même?
Non, il n'y a pas de danger, parce qu'on utilise des bactéries photosynthétiques qui ont été isolées de la nature et qui ne sont pas du tout modifiées. Donc en fait, on a juste sélectionné ces bactéries parce qu'elles avaient des capacités très étonnantes de s'adapter à des milieux très stressants, dont les pesticides font partie. Et donc elles sont capables de dégrader ces pesticides pour s'en protéger. Mmh. Et en fait, on utilise cette caractéristique de plusieurs bactéries, ça n'est pas qu'une, pour dépolluer ces pesticides. Et donc, typiquement, les effluents qui contiennent ces pesticides issus de l'agriculture, donc bon, on les fait transiter par des bains où il y a les bactéries, et les pesticides sont dégradés, et l'eau, la charge polluante est considérablement abaissée. Ouais.
Mais c'est génial, mais ça marche déjà alors?
Ah ben oui, là, ça fait 3 ans et demi, ça fait l'objet d'un programme européen, donc pour faire la preuve de concept et la preuve de l'efficacité. Donc ça fait 3 ans et demi que ça marche chez des agriculteurs.
Et là, vous travaillez déjà avec des agriculteurs?
Oui, on a des démonstrateurs. Et là, on est en train de créer une société pour commercialiser le produit.
Voilà. Mais c'est formidable, parce que quand même, on n'y va pas de main morte en France, hein, sur les pesticides.
Oui, il n'y a pas qu'en France.
Hein. Oui, bon,
c'est vrai que c'est toujours monté un petit peu en épingle, mais bon, c'est utilisé dans l'agriculture
bien sûr, en
général. Mais c'est pas tellement l'épandage des pesticides sur les cultures qui est traité là. C'est le lavage des instruments après l'épandage.
D'accord. Et pourquoi on traite pas les terrains, alors, justement, pareil?
Ben, ça pourrait se traiter, mais moi, j'ai pas la solution.
Ouais. Voilà, c'est une autre recherche. Donc, c'est une autre recherche. Voilà. Aline, pour terminer très vite.
Juste une question. Est-ce que tous les pesticides sont concernés ou est-ce que c'est certaines familles chimiques?
Alors, nous, on a testé dans plusieurs exploitations, justement, pour élargir le panel de biodégradation. Et donc, on a répertorié, pour l'instant, plus de 100 pesticides qui sont dégradés de toutes les familles chimiques qui existent. Donc, bon, en extrapolation, bon, c'est toujours de l'extrapolation, mais on peut dire que ça attaque à peu près toutes les familles chimiques.
En tout cas, bravo à tous les quatre, puisque vous avez été récompensés.
Merci.
3 minutes pour une invention, puis évidemment, il y a les dépôts de brevets, il y a les applications ensuite qui pourraient en découler. Donc tout ça, c'est très intéressant. C'était le processus aussi de vos recherches qui nous intéressait en partant de vos inventions, pure recherche fondamentale sur des applications qu'on peut comprendre dans différents domaines. Et vous étiez donc tous du CEA de Cadarache. Allez, on reste ensemble dans un instant. On va parler des ondes électromagnétiques. Et ça aussi, ça nous intéresse au plus haut point. I'm your boogeyman. That's what I am. I'm your boogeyman, Casey and the Sunshine Band et Thierry Dupin pour la programmation musicale de ce club.
La tête au carré. Le club.
Je peux aussi contrôler le courant électrique et les champs magnétiques. Pas tous, seulement les plus basiques. La télévision. Le téléphone. La radio.
Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, Joviard, un jingle spécialement pour vous.
Merci beaucoup,
en rapport
j'apprécie.
Avec notre sujet, vous pouvez remercier Stéphanie Texier qui vous l'a concocté. Vous êtes le titulaire de la chaire Télécom Paris Tech qui s'occupe de la caractérisation et modélisation. Et vous avez signé pour The Conversation France un article sur notre exposition aux ondes électromagnétiques. Sujet qui ne vous a pas échappé, Aline Richard. Évidemment, tout le monde s'intéresse à ce sujet-là.
Tout le monde s'intéresse. On sait qu'il y a eu beaucoup d'études non conclusives pour le moment sur la dangerosité supposée ou réelle des ondes électromagnétiques dans notre environnement. Là, ce qui nous a particulièrement intéressé sur le site, c'est que pour une fois, on parle des infrastructures, c'est-à-dire que on parle de, et par là même, on parle des usages. Mmh. C'est-à-dire que, comme on va le voir, comme va nous expliquer Joe, on est tous accro à nos portables, mais on se méfie des antennes relais, ce qui est quand même un peu curieux.
Joe Viard, alors vous travaillez avec des épidémiologistes, des médecins, justement pour essayer de quantifier l'exposition à toutes ces ondes.
Oui, je travaille pour des épidémiologistes, pour des médecins et avec des ingénieurs et des gens qui travaillent sur le réseau pour essayer d'évaluer l'exposition globale que l'on peut avoir aux ondes électromagnétiques, c'est-à-dire en fait les ondes qui viennent des antennes relais, mais aussi les ondes qui viennent des téléphones portables, des tablettes et de tous les objets qui rayonnent autour de nous. Mmh. Et en fait, quand on analyse cette foison de sources, on s'aperçoit que notre perception des choses est un peu biaisée.
C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus aux antennes relais qu'à ces téléphones portables ou à ces tablettes que nous avons pourtant autour de nous toute la
Absolument.
Journée.
Absolument. Ce qui nous est utile, on l'oublie. Mmh. On considère qu'on ne l'utilise pas beaucoup. On rectifie un peu la réalité pour vivre avec et on concentre son intérêt ou son inquiétude ou ses questions sur ces antennes relais dont on voit pas forcément l'utilité personnelle et on se dit voilà, ce qui ne m'est pas utile est donc subi et ce qui m'est utile est volontaire. Et on se retrouve avec, c'est ce qu'on explique dans l'article, en fait il y a une dichotomie qui est faite entre je considère les choses pas utile comme subi, et en plus on n'a pas de capteur, pour revenir à la conversation précédente, on n'a pas de capteur qui nous permette de sentir les ondes. Ouais, en gros, en étant petit, on apprend à traverser la rue, on sait combien de temps va être la voiture qui arrive et on peut traverser la rue, donc on a appris. Alors sur les ondes, on n'apprend rien. On n'aura jamais de capteurs qui nous permettent de savoir s'il y a une onde ou pas. Et donc ça fait que on a transformé les choses. On relie ce qu'on voit à ce que l'on considère comme une source d'exposition importante. Mmh. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui est vu comme important, ce sont les antennes relais. Et ça n'est pas la réalité.
Ouais. Olivier Braillard, faut nous inventer un capteur pour nos téléphones portables pour savoir un peu ce qu'on se met dans le cerveau.
Le problème est compliqué parce que bon, les antennes relais, c'est l'émission. Et puis c'est aussi la réception, et il y a autour de nous, donc chaque personne finalement est un porteur de champs électromagnétiques. Mmh. Alors c'est un réseau monstrueux ça.
Absolument, et donc tout l'enjeu des études que je mène, c'est de regarder quel pourrait avoir l'impact des nouvelles technologies, des nouvelles architectures. Mmh. En gros, les gens, la population de manière globale se dit « oui, on va avoir de nouvelles antennes, c'est pas bien ». Et quand on regarde l'apport d'une nouvelle antenne, on se dit, mais le téléphone va pouvoir émettre moins pour pouvoir communiquer avec cette antenne. C'est que la densification, qui est vue comme une source d'exposition supplémentaire, dans la réalité, ne l'est pas forcément, puisqu'elle va permettre à des téléphones mobiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a des classes, ce qu'on explique dans le papier, il y a des classes de population, des jeunes, qui sont équipés à 100% et qui utilisent le téléphone comme la source majoritaire
Absolument.
D'accès.
Et qui dorment quasiment avec,
Qui dorment avec, mais qui l'utilisent aussi pour sur Internet. C'est-à-dire que le téléphone devient le vecteur d'accès au réseau, que ce soit voix ou données.
Mais alors, ce que vous nous dites, quand vous travaillez justement avec les épidémiologistes ou avec les médecins, vous nous dites attention, notre perception n'est pas la bonne et le danger, il est plutôt autour de nous. Et c'est ça que vous nous dites au fond ou pas ?
Quand je travaille avec les épidémiologistes, avec les médecins, ce que l'on regarde, quand on veut faire une étude d'épidémiologie, on va essayer de regarder quelle est la corrélation entre la progression ou l'occurrence d'une maladie avec un agent physique.
Ouais.
Bien, dans ce cas-là, chez les épidémiologistes, la question n'est pas de savoir quel est le niveau... Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir quel est le niveau induit par les antennes relais, puisqu'on s'intéresse majoritairement à ce qui est la source majoritaire d'exposition pour le cerveau, c'est le téléphone portable.
Oui, sauf qu'on a envie de tout savoir. C'est-à-dire qu'on s'intéresse autant aux antennes relais qu'à nos téléphones portables, à nos tablettes. Hein.
Bien sûr.
Alors, mais décomposer, c'est dur. Aline le disait tout à l'heure, finalement, on a peu de littérature scientifique sur les effets délétères aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils n'existent pas ou parce qu'on n'arrive pas vraiment à le définir ?
Il n'y a aucune étude qui a fait la démonstration d'un effet délétère. Alors ça ne veut pas dire que il n'y a pas de question, puisque on a une utilisation, ce que je disais tout à l'heure, on a une utilisation des portables par les populations jeunes qui est de plus en plus importante. Donc on a un devoir de surveillance. Ça veut dire qu'il est nécessaire, indispensable de poursuivre la recherche dans ce domaine. Mais c'est pas parce qu'on poursuit la recherche que c'est démonstration qu'il y a un effet. C'est un peu tout ça. On est dans tout ce domaine. On est sur un domaine où la perception du risque, la perception de l'exposition est plein de présupposés.
Mais il y a aussi le principe de précaution quand même.
Le principe de précaution, il est derrière tout ça, oui.
Il y a une question qui est pas du tout annexe en fait à cette discussion qu'on a ici, c'est que quand on parle effectivement d'exposition et d'infrastructure, qu'en pensent nos décideurs ? C'est-à-dire que par exemple, moi je suis parisienne, donc je vois de temps en temps la mairie de Paris m'annoncer la construction d'une antenne relais. Est-ce que votre discours, qui est un discours de science, c'est un discours raisonnable, est-ce que c'est entendable par les décideurs, notamment municipaux, c'est une question importante puisque tout ça, ça relève aussi d'un climat de méfiance important.
Quand on discute avec les décideurs des villes, oui, ils l'entendent. La question, c'est aussi qu'ils ont à répondre de l'appréciation de l'exposition réelle, mais aussi des questions qui se posent. Quand les concitoyens se posent des questions sur la présence d'antennes, on leur demande de répondre à cette question-là. Et c'est notre rôle scientifique, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup qu'on m'ait invité aujourd'hui, d'expliquer que la perception qu'on a n'est pas forcément la oui, réalité.
Mais c'est vrai que nous, au-delà de la perception, on a envie de savoir s'il y a des effets quand même, ou pas. Parce que
bien sûr,
on baigne dans les ondes quand
bien
même
sûr, aujourd'hui. Mais c'est même le problème. C'est-à-dire que la première question qu'on pose, est-ce que c'est dangereux ?
Ben, c'est normal.
Mais la question à laquelle je dis, c'est avant de se poser la question, ou en même temps qu'on se pose la question, est-ce que c'est dangereux ? Il faut se poser où sont les sources d'exposition.
Ouais. Alors, on va se poser les questions parallèlement. Ce sera mieux comme ça. Olivier Braillard.
Oui, justement, j'ai un peu l'impression que, si j'ai bien compris, il faut d'abord connaître la source, les sources, l'ensemble de ce qui fait l'effet. Le problème des ondes électromagnétiques, c'est qu'entre l'effet et le résultat, il va y avoir, ce sont des effets à basse, je veux dire, c'est pas aussi violent qu'un train qui déraille ou quelque chose comme ça, où on voit les effets tout de suite. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Les jeunes populations qui utilisent beaucoup plus le portable que nous, on n'a même pas le même référentiel de retour d'expérience, parce qu'on n'a pas eu le portable jeune. Et puis on a eu des portables qui étaient peut-être moins puissants. Voilà.
Bon, Joviard, votre réponse pour terminer.
Non, les nouvelles technologies, les nouveaux réseaux vont... font que le niveau d'exposition instantanée diminue, mais que la durée d'utilisation augmente.
La 5G, par exemple, on va vers la 5G,
Il va y avoir une densification des réseaux, ce qui fait que ce qui va être émis par les portables est vraisemblablement moindre, mais avec une utilisation qui est plus importante. Donc,
À suivre, évidemment. Et article à lire sur theconversationfrance.com.
Alors, theconversation.com/France.
Voilà, merci beaucoup. Et tout ça est en lien sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup à vous tous.
Merci.
Passez un très bon week-end.
Merci
à Sacha Trop et Antoine Gomez qui étaient à la technique. Et puis dans un instant, après les infos, Affaires Sensibles avec Fabrice Rouel, le dernier voyage de Jacques Brel aux Marquises.